C'est l'heure de l'invité mystère sur RTL.
Bienvenue rue Bayard, aux grosses têtes, invité mystère. Mes six camarades vont vous poser des tas de questions pendant que Eva, notre charmante hôtesse, qui a un choker autour du cou, comme ça vous savez ce que c'est maintenant, ce choker qu'on a mis dans la valise en plus des 1003 euros, eh bien Eva distribue des petits bouts de papier, puisque sur ces papiers, j'explique pour les auditeurs qui ne voient pas ça, nos camarades grosses têtes proposent des noms au fur et à mesure de leurs questions. Est-ce que vous m'entendez bien ?
Oui.
Oui. Oui. Alors voici les premières questions.
Doit-on vous appeler monsieur ?
Oui.
Donc vous êtes un homme.
Bonjour, invité mystère. Dis bonjour d'abord.
Ah oui, bah bonjour, oui, bonjour.
Vous
bonjour.
Êtes pour bon. La légalisation du cannabis ?
Je serais plutôt pour, oui.
Est-ce que vous saviez que c'était rue Bayard, RTL ?
Oh bah oui, puisqu'il est là. C'est très con, cette question.
Non, parce qu'il pouvait très bien ne pas savoir. C'est-à-dire qu'il ne venait pas souvent.
Est-ce que vous aimez les moules ?
Oui, beaucoup.
Et vous allez être servi, hein ?
Est-ce que vous aimez les frites ?
Je n'aime pas beaucoup les frites.
Ah, c'est vrai, vous n'aimez pas les frites.
Vous êtes pour le port du burkini ?
Je pense qu'on doit respecter la liberté des femmes.
Est-ce que vous êtes pour le port du Havre ?
J'espère. J'espère que c'est pas moi que vous appelez ça comme ça.
C'est votre petit surnom, Laurent.
Le port du Havre.
Est-ce que vous portez un pseudonyme ?
Non.
Est-ce que vous êtes connu ailleurs qu'en France ?
Oui.
Est-ce que vous êtes pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ?
Franchement, j'ai pas d'opinion sur ce sujet.
Vos chaussées du combien ?
Bonne question.
Oui, c'est pas mal.
Comme 44 ça. Et demi.
Ah, vous êtes grand,
et
alors.
Vous touchez au bout.
Attendez, vous êtes connu, c'est intéressant ça quand même. Vous êtes connu en dehors de la France, dans toute l'Europe.
Oui.
Et est-ce que vous êtes connu aux États-Unis aussi?
Un petit peu.
Wow. C'est pour l'accueil des migrants.
Vous vous rendez compte?
Respect quand même.
Alors là, il y a qu'un chanteur qui peut être connu.
Il y a du lourd dans la loge.
Êtes-vous chanteur?
Non.
Oh bah, y a qu'un
écrivain.
Chanteur. Bah si, vous, monsieur, vous êtes chanteur. Il n'y a qu'un chanteur qui peut être connu
bah
comme
non,
ça.
Bah non, non, non.
Écrivain,
non.
Écrivain.
Oui.
Ah, vous êtes traduit, vous êtes traduit.
Oui.
Et vous êtes content de la traduction, vous... Ah bah oui, vous savez pas.
Bah, je suis incapable de juger. Bah, ouais,
voici un premier indice musical. Ça n'est jamais désagréable, un peu de Mozart. Vous êtes d'accord, invité mystère ?
J'en ai besoin.
Eh oui, Isabelle Mergault vous a déjà identifié. Florian Gazan aussi. Laurent Baffy. François Rollin. Non, mais dites donc, alors là, vraiment, vous êtes...
Alors là, mais vous êtes...
Il y a que les deux jeunes qui n'ont pas trouvé.
Chantal Latsou et Jérémy Ferrari, eux, cherchent encore... Je vous propose, chers Jérémy et Chantal, de continuer donc à poser quelques questions.
Ah oui, parce que nous, on n'a plus le droit de rien dire.
Alors, vous êtes un auteur très connu dans le monde entier, vous êtes traduit.
Oui.
Et vous écrivez des poèmes, des romans d'amour.
Pas spécialement des romans d'amour.
Est-ce que votre littérature est assez légère ou c'est des choses un peu plus pointues ?
Je crois que c'est un mélange de légèreté et de sérieux.
Chantal Latsou proposait Guillaume Musso. Êtes-vous Guillaume Musso ?
Non.
Non ?
L'autre, alors ?
C'est qui l'autre ?
Placide.
Il y a un autre auteur Placide un peu comme lui qui a beaucoup de succès.
Non, mais vous n'écrivez pas que des livres, il faut le dire.
Ah, j'ai trouvé.
Ah, c'est vos livres qui vous ont fait connaître à l'étranger ?
Pas d'abord, il y a d'abord eu autre chose.
Chantal Latsou propose Marc Lévy. Êtes-vous Marc Lévy ?
Non.
D'accord.
Est-ce que vous faites de la photographie à côté ?
Ah, pas du tout.
Mais le truc qui vous a fait connaître à l'étranger, c'est aussi de l'écriture, mais pas forcément de livres, c'est ça ?
Exactement.
De chansons ?
Non.
Film, scénario ?
Un autre indice,
non.
Quand même.
Pardon ?
Un autre indice.
Serre-toi, serre-toi.
Au bout de 4 secondes.
Surtout qu'il n'y en a déjà pas eu un.
Là, vous allez ramener tous les deux.
Oui, il y a eu Mozart.
Ah oui, vous inspirez de Mozart quand vous... Enfin, vous écoutez Mozart quand vous écrivez ?
J'écoute pas de musique quand j'écris, mais j'écoute du Mozart souvent dans la journée.
Vous écrivez des pièces de théâtre aussi ?
Oui.
C'est ça.
Et vous avez un théâtre ?
Oui.
Et voici un autre indice musical.
Quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro, je prends ta main et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. Tu m'entraînes dans la foule d'une fête qui déroule ses ailes.
Et oui, puisque vous étiez à Rio pour les Jeux Olympiques, invité mystère.
Oui.
Mais vous n'êtes pas sportif pour autant.
Pas beaucoup, non.
Mais vous aimez l'athlétisme.
Oui, je suis spectateur.
Vous êtes monté là-haut?
Chantal Latsou, en tout cas, vous a elle aussi identifié. Bravo,
ouais,
Chantal.
Tout seul, hein,
ouais. Jérémy Ferrari.
Je le connais peut-être
pas. Mais tu lis.
De temps en temps.
Alors, je suis sûr que vous le connaissez.
Tu le connais.
Tout le monde le connaît.
Ben non, pas moi.
Mais je te dis que si.
Mais arrête de m'emmerder, je le connais pas.
Je te dis que si.
Si, on peut t'aider si tu veux. Pense cuisine.
Il a des grands pieds pour sa taille.
Je sais pas comment ça s'écrit, mais.
Bravo, Jérémy Ferrari, vous aussi.
À
vous
cause
avez...
de la cuisine. Hein,
Six grosses têtes ont identifié maintenant notre invité mystère. Alors allons-y, c'est parti. Pour...
Martin Lamotte.
Notre invité mystère, c'est.
Éric Emmanuel Schmitt.
Éric Emmanuel Schmitt qui nous rejoint. Éric Emmanuel Schmitt était bien notre invité mystère. Bienvenue aux grosses têtes. Bonjour. Je montre à la caméra, puisque nous sommes filmés par Paris Première aujourd'hui, votre dernier ouvrage, L'homme qui voyait à travers les visages. Je vais même le glisser dans la valise RTL. Ce sera un cadeau supplémentaire pour le futur gagnant de la valise. Publié chez Albin Michel, L'homme qui voyait à travers les visages est un roman qui commence par un attentat, cher Éric Emmanuel Schmitt. Vous avez été inspiré par ce qui s'est passé à Bruxelles, puisqu'on sait que vous vivez aussi en Belgique, et qu'en plus, dans ce livre, vous vous mettez, on va dire, en scène, puisqu'on y trouve dans ce livre une visite à Éric Emmanuel Schmitt.
Oui, c'est un livre qui commence lors d'un attentat à la sortie d'une messe. Un garçon s'est fait sauter et mon héros, Augustin, a vu ce qui s'était passé, mais surtout il a un don, Augustin, c'est ce que dit le titre, il voit à travers les visages, c'est-à-dire qu'Augustin voit les invisibles qui sont autour des êtres humains, c'est-à-dire il voit les morts, c'est-à-dire en fait il voit le passé des gens. Et donc Augustin, qui est un jeune journaliste, va être au cœur de l'enquête.
Il est blessé lui aussi, hein,
dans l'attentat. Oui, le souffle de l'explosion l'a précipité par terre. Et surtout, on va se rendre compte qu'il a ce don de voir ce que les autres ne voient pas, c'est-à-dire de voir les invisibles, de voir les morts autour des vivants. Et donc, il va essayer de comprendre d'où vient la violence. Mais en même temps, il s'agissait de réfléchir, à ce moment-là, c'est un dialogue pour réfléchir sur le rôle des religions dans la violence.
Voilà. Parce que c'est compliqué, au fond, le narrateur, ça n'est pas vous. Hein, qu'on comprenne bien.
Oui, c'est Augustin.
Le narrateur, ça
qui
n'est
va
pas
voir
vous.
La star, mais, Éric Emmanuel
Schmitt. Mais le narrateur va voir Éric Emmanuel Schmitt. C'est quand même
c'est
dingue.
Il va bien.
mais pas si bien que ça, si vous les avez.
Est-ce que vous avez compris, Chantal?
Ça doit être difficile à comprendre, non?
Mais non, c'est très simple. Et c'est évidemment l'occasion pour Éric Emmanuel Schmitt de donner son avis à travers le personnage d'Éric Emmanuel Schmitt sur les religions. D'ailleurs, il y a cette question que lui pose donc le fameux Augustin. Monsieur Schmitt, vous qui êtes intéressé à plusieurs religions, en leur accordant une attention respectueuse, vous qui n'avez pas hésité à avouer votre foi, quel jugement portez-vous sur les terroristes qui tuent et s'immolent au nom de Dieu? Et là, vous répondez, enfin, votre personnage de Schmitt répond « Me voici doublement triste, affligé par la violence, indigné qu'elle se réclame de Dieu. » Mais, vous demande votre interlocuteur, Dieu n'est-il pas belliqueux? Dieu ne parle pas nos langues, il a besoin d'interprètes. Mais alors, est-ce que les interprètes manquent de fiabilité? Aucun, au départ, ne parle la langue de Dieu.
Finissez le livre, parce que moi, j'accroche bien.
Ça veut dire, et là, je poursuis, mais je vous pose la question à vous, ça veut dire que les interprètes manquent de fiabilité.
Les interprètes manquent de fiabilité, mais surtout les lecteurs manquent de fiabilité. Moi, ce qui me frappe, comme sans doute beaucoup d'entre vous, c'est que quand on ouvre les livres sacrés, les trois grands livres, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament...
Et la Redoute.
Et le Coran... On trouve des textes magnifiques qui élèvent l'âme et en même temps des injonctions à la violence. Et le livre est une tentative de réflexion là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ma théorie, c'est que c'est la lecture qui fait le livre et non pas le livre qui fait la lecture. C'est-à-dire certains vont s'emparer du Coran et vont y trouver de quoi s'élever, de quoi être plus harmonieux avec les autres, etc. Et d'autres vont simplement retenir les quelques sourates ou les quelques versets qui vont les inciter à la violence. J'ai d'ailleurs l'autre jour rencontré un rabbin qui m'a raconté une histoire absolument formidable qui résume au fond ce que je veux dire. C'est un homme qui va à la synagogue, il a un billet de 500 euros. Et il se dit, bon, je ne peux pas assister à la cérémonie avec le billet de 500 euros, donc il va juste à la bibliothèque à côté. Et pour cacher son billet, il prend la Bible, par prudence, et range le billet à la page qui commence par « Tu ne voleras point ». Il va à la synagogue. Une fois que c'est fait, il revient, il reprend le livre, il ouvre. Le billet de 500 euros a disparu, mais il y a 250 euros à la page qui commence par « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ».
Ah, c'est joli.
Raconte celle du rabbin au marché au Prépuce.
C'est une belle histoire. Autre question posée à Éric Emmanuel Schmitt dans le livre, mais que je vais lui poser ici aux grosses têtes ce soir. Si ce n'est pas Dieu, donc ce sont bien les religions qui poussent au crime ?
Alors ça, c'est la grande question, et un de mes personnages croit ça. C'est-à-dire que non seulement les religions poussent au crime, mais que Dieu pousse au crime. Moi, ce que je pense, c'est que d'abord, on a toujours commis des crimes au nom des religions, mais on n'a pas seulement commis des crimes au nom des religions. On les a toujours commis au nom d'idéologies. Elles sont parfois des idéologies pas-religieuses. Le nazisme, en Union soviétique, etc. Non, ce que je crois, moi, c'est que la violence n'est pas une maladie des religions. La violence, c'est une maladie de la pensée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui refusent d'accepter que ce qu'ils pensent est incertain. Il y a des gens qui refusent que sur certaines grandes questions, on n'ait que des réponses provisoires, des réponses qui ne sont pas forcément définitives. Il y a des gens qui veulent croire que ce qu'ils pensent est la vérité. Il y a des gens qui transforment leur subjectivité en objectivité. Donc c'est une maladie de la pensée. C'est au fond refuser la condition humaine, refuser la fragilité de tout ce que nous pensons et se croire plus qu'on est. Alors quand on est comme ça, évidemment, on va nier la réalité et on va tuer dans la réalité tout ce qui remet en question notre pensée. Donc, c'est pas une maladie des religions.
J'ai tout compris. Tu es très clair, c'est vrai, c'est très intéressant.
Je reviens rapidement sur les quelques indices. Mozart, évidemment. Vous pouvez expliquer vous-même.
Oui, ben en fait, Mozart m'a sauvé la vie quand j'avais 15 ans. Je faisais une dépression comme en font les adolescents qui n'osent pas aborder la réalité, qui ont envie de fuir, et moi j'avais carrément des pulsions suicidaires. Et heureusement, un jour, un prof m'a emmené à l'Opéra de Lyon où j'ai assisté aux répétitions d'un opéra de Mozart, Les Noces de Figaro. Et pendant un air que chantait une grosse dame sur la scène, j'étais guéri. La guérison par la beauté. Je me suis dit, s'il y a des choses aussi belles sur Terre, je vais rester un petit peu.
Et vous avez écrit Ma vie avec Mozart. Je vais à Rio, c'était effectivement pour les JO et plus particulièrement l'athlétisme. Oui. Alors, c'était votre spécialité ?
Non, c'est héréditaire. Ma mère était championne de France de sprint. Elle était la recordman de France, record woman de France du 150 mètres.
Elle avait la flemme de courir 200 ou...
À l'époque, les femmes ne couraient pas 200 mètres, elles couraient 150. Les femmes ne couraient pas 100 mètres, mais...
80.
C'est le nom d'Augustin d'ailleurs.
Hein ?
C'est le nom d'Augustin dans le livre.
Bravo. Vous êtes le seul à l'avoir remarqué.
Et oui. Et Nelson Montfort, vous l'avez vu de près ?
Je l'ai vu de près et j'ai adoré certains moments.
Est-ce que vous pensez que c'est lui qui traduira tous vos romans désormais ?
Écoutez, il y a eu un moment qui m'a enchanté avec Nelson. C'est ce Français, Kevin Mayer, là, qui a eu la médaille d'argent en décathlon. Et il lui dit, alors Kevin, vous étiez sur un nuage pendant ces épreuves, dans le style Nelson Montfort. Et Kevin Mayer a répondu, non, je me suis sorti les doigts du cul à chaque épreuve.
Ah, c'est joli. Merci pour
j'aimais bien ces contrastes.
Voilà une belle anecdote qu'on ne peut raconter qu'aux grosses têtes. Vous avez bien fait de la raconter ici. Éric Emmanuel Schmitt était notre invité mystère. L'homme qui voyait à travers les visages, son dernier roman publié chez Albin Michel, est dans la valise RTL. Merci Éric Emmanuel Schmitt. On se retrouve demain à 16h pour les grosses têtes. Dans un instant, tout de suite même, Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir Marco.